À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
Bon vendredi tout le monde, on est à deux, c'est mieux en direct de la Pouffe Tifère. Je suis bien content de l'avoir à l'émission aujourd'hui, c'est toujours le fun de le recevoir. Christian-Marc Gendron,
salut. Allô Luc, comment ça va?
Alors bien toi?
Ben oui, salut tout le monde.
Il y a du monde aujourd'hui.
Il y a plein de monde, c'est le fun au bout.
Oui. Christian-Marc, Pianoman Experience,
oui.
En disque.
En disque, oui.
Est-ce que c'est ton idée? Est-ce que c'est des gens qui t'ont travaillé pour te convaincre
c'est
de le faire?
Toute mon idée. Moi, je suis producteur de disques maintenant. J'ai ma propre maison de disques. Fait qu'évidemment, que il faut que j'en sorte des disques. Là. Donc, en ayant une nouvelle tournée de spectacle, et puis je me disais que... En fait, les gens souvent me le demandaient. J'ai fait 5-6 shows sans... 7 shows sans avoir d'album. Et puis, depuis que je l'ai, bien là, c'est sûr que les gens ressortent avec un souvenir du spectacle, de ce qu'ils ont vu. C'est les grands moments du spectacle, si tu veux. Mais ça en prenait un, mais je suis... C'est une drôle d'expertise que ça prend, parce que c'est des grands classiques de la musique américaine, britannique, même québécoise. Donc, demander les licences, les droits pour avoir ces chansons-là, ça a été...
Est-ce qu'il y en a que tu n'as pas eu, qui ne sont pas sur le disque parce que tu ne les as pas eu?
Non, on les a tous eu, mais ça a été un mois d'ouvrage. Moi, j'avais dit à ma femme qui travaille avec à ma compagnie de disque avec moi, ben, je dis, quoi, tu peux-tu t'occuper des licences? Ça va être facile, on va prendre avant-midi. Mais non, ça a pris un mois. Un mois de relance de email, d'appel à Toronto, de ci, de ça. J'ai dû demander de l'aide de grands éditeurs à Montréal, surtout pour des conseils puis tout ça. Mario Pécha m'a été d'une grande aide, en fait.
Qui sait très bien comment ça marche, parce qu'il a fait des albums avec des reprises.
Exactement. Donc, il dit, fais pas ça comme ça. J'ai fait ça il y a 10 ans, ça m'a coûté tant. Donc, j'ai eu un peu de mentorat puis un peu d'aide, puis voilà. Mais c'est pas simple.
parce que d'autant plus qu'il y a des artistes là-dedans qui ne sont plus.
Donc,
c'est tombé dans une autre main, des fois une maison de disque, une maison d'édition, la famille n'est même plus là-dedans.
Exact, puis souvent, parfois, il y a des éditeurs qui veulent juste même pas que la chanson elle apparaisse sur d'autres médiums. Ça se peut des fois qu'on se fasse dire non ou qu'on se fasse demander un prix exorbitant, puis à ce moment-là, la décision est facile à prendre. Là. Mais dans le cas de ces chansons-là, on a tous eu les droits, en fait. Très, très content de ça.
Ça vient d'où ta passion pour le piano?
Ben moi, tu sais,
parce que tu as toujours fait ça, depuis qu'on te connaît en tout cas, mais est-ce que ça vient de très jeune le piano?
Très jeune, je suis allé à l'école Le Plateau à Montréal, j'étais en musique, mais je faisais du violon après ça, mais je m'intéressais beaucoup au piano au secondaire. J'ai vraiment développé en fait, c'était vraiment une passion pour moi. Je suis allé étudier au cégep, j'ai fait un double deck en piano puis en chant. Après ça, je suis allé habiter au Japon, j'ai chanté là-bas, j'ai joué du piano là-bas, je suis allé aux États-Unis souvent, longtemps, j'ai fait des bateaux de croisière comme pianoman. Donc, c'est un métier que j'ai développé aussi d'être pianoman, d'apprendre un grand répertoire de chansons des années 30 à aujourd'hui, de tous les styles, de quelques langues même. Puis je me suis tout le temps aperçu que les soirées avec un piano à queue, avec des gens alentours, c'est des soirées magiques. Là, j'ai été comme un peu chanceux. Il y a Marc Gervais qui est un conférencier, qui est un ami aussi. Il m'a dit, pourquoi qu'on mettrait pas ça sur des grandes scènes? Il dit, je vais te présenter aux gens de Chaos Scène, Louis Morissette, Véronique Cloutier, tout ça. Je vais te rentrer chez Chaos Scène. Puis il dit, pourquoi qu'on mettrait pas cette magie-là des soirées de piano-bar? Sur des grandes scènes du Québec, tu sais. Donc, c'est vraiment, on recrée l'esprit de l'époque des piano-bars de Las Vegas, de New York, d'Atlantic City, de Montréal, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait. On revit l'époque. C'est une belle expérience pour les gens. J'ai trois pianos sur scène. Il y a un numéro hommage à Sarah McLachlan, à Alicia Keys. C'est Manon qui chante. Et ma femme, Manon.
Oui, Manon Séguin.
Et elle chante, mais elle joue aussi le piano. Donc, pour les gens, c'est une surprise aussi.
D'autant plus que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas de show au piano, non? C'est pas toi qui l'as convaincu de reprendre le piano?
Elle voulait rien savoir de ça. Elle voulait rien savoir. Fait que, puis elle veut pas que je sois là quand elle pratique.
OK.
Bon, ça complique un peu les choses. Mais c'est comique. Là, on a bien du fun avec ça. Puis je suis très fier de ce show-là. Très fier des partenaires que j'ai. Marc Gervais, Chaos Scène. Christian Sbroca qui m'aide avec la mise en scène, qui est un ami précieux. Toyo, qui est mon chef d'orchestre depuis plusieurs années. C'est avec lui qu'on a monté ça, tu sais. Je sais pas, il y a un beau spirit alentour de ce projet-là. Puis là, depuis un an et demi, j'ai la chance de faire la première partie de Brigitte Beaujoli. Puis c'est Brigitte, elle m'a dit, pourquoi tu ferais pas la première partie en présentant ce spectacle-là que tu vas offrir dans les salles éventuellement? Puis
c'est ton showcase?
Exactement, c'est un showcase à chaque soir. Puis je me suis aperçu que les albums s'envolaient, puis qu'il y avait une super bonne réaction, et que chaque salle de spectacle qui voyait le show disait, hey, je veux que tu reviennes avec ce spectacle-là. C'est sûr que ça m'a été une aide indescriptible. Là. Puis Brigitte Beaujoli, j'ai une admiration sans borne pour cette fille-là, pour son talent, pour son énergie, je suppose qu'elle trouve ça, mais aussi pour ses décisions artistiques. C'est la future grande dame de la musique au Québec.
Tout à fait d'accord.
Ouais, ouais.
Comment on fait le choix des tunes? Parce qu'évidemment, il y a des incontournables, selon moi. Piano Man, forcément, oui, oui. De Billy Joel, fallait que ça soit là. Frédéric, pour la musique au Québec, je pense qu'en frais de chanson piano,
oui.
Ça devient un
incontournable. C'est la plus connue, puis c'est le plus grand des Piano Man de l'histoire du Québec, c'est Claude Léveillé. Il y a une esthétique, une façon de jouer qui est indescriptible. Comment il faisait pour chanter en jouant en même temps, c'est très, très compliqué. Je dirais que c'est la chanson la plus difficile pour moi à exécuter. Le choix des chansons, je suis vraiment allé avec la réaction du public, un petit peu, je te dirais, pas premier degré, mais un peu quand même, Great Balls of Fire. Évidemment, c'est pas toutes mes chansons à moi préférées. J'en ai d'autres, moi, des moments qui me plaisent plus. Parce que pour moi, je me dis tout le temps, il me semble les gens doivent être tannés de Great Balls of Fire, puis ils doivent être tannés de Piano Man. Mais non, ils en redemandent encore et encore. Donc, les choix de chansons, je me suis vraiment fié au public, là, aux réactions du public. On a mis, évidemment, Hallelujah de Leonard Cohen, qui n'est pas une chanson nécessairement
de piano,
mais c'est une des chansons que je me suis fait le plus demander dans ma carrière. Manon la chante d'une façon divine, puis donc je pouvais pas la mettre sur l'album, parce que quand on la fait en spectacle, les gens la redemandent, donc on l'a mis sur l'album. C'est vraiment les moments forts du spectacle qui sont sur l'album.
Alléluia, est-ce qu'on hésite? Parce que si on fait le tour rapidement, là, si on va juste faire une petite recherche Google, il
ouais.
n'y a pas grand monde qui ne l'ont pas fait, Alléluia, encore.
C'est vrai, t'as raison.
Elle a été indiquée énormément de fois par plein de monde,
ouais.
De tous les genres, là, ouais. Dans tous les styles musicaux, tout le monde le fait.
Ouais.
Est-ce qu'on hésite de dire, je vais en rajouter une couche, moi aussi je vais la faire?
Non, moi c'est vraiment, c'était vraiment, tu sais, Manon... La façon qu'elle l'interprète, elle se l'est appropriée. Ça fait des années qu'elle la chante. Elle l'a chantée avec la chorale de sa mère longtemps. Sa mère est décédée il y a quelques mois. Donc, il y avait une symbolique aussi. On ne pouvait pas ne pas mettre cette chanson-là. Même Manon, elle a chanté cette chanson-là au funérailles de sa mère. C'est un gros, gros, gros symbole. Donc, au-delà de la réinterprétation de ci, de ça, tu sais, je veux dire, Over the Rainbow aussi, ça a été une chanson qui a été refaite. Mon Stan Jamais d'un grand classique. Puis, je pense que Manon, c'est une grande interprète. Puis, je défie tout le monde de ne pas avoir des frissons quand ils viennent au spectacle ou s'ils l'écoutent sur le disque, parce que c'est vraiment une grande interprétation qu'elle fait.
C'est quoi le feeling quand on reçoit ce disque-là, quand on monte? Parce que c'est pas la même chose qu'un disque de chansons originales. Il y a un track qui est peut-être moins là.
Le track est moins là parce que quand on a enregistré l'album avec les boys, avec mes musiciens, ben, le show était déjà rodé. Sauf que dans le show, on fait des medley parce qu'on fait vraiment... On essaie de faire des numéros flamboyants. Donc, c'est sûr qu'on fait un hommage à Billy Joel. On fait 5-6 tunes. Là, on pouvait pas mettre 5-6 tunes de chaque artiste parce que là, les licences, ça se pouvait plus. Ça coûtait trop cher. Il fallait choisir vraiment une chanson par artiste ou à peu près. Donc, d'aller en studio avec les musiciens, c'était plus facile que j'aurais pensé. Parce que c'était rodé, c'était dans nos mains, on les fait tout le temps, ces chansons-là.
Oui, c'est ça.
Ça a pris 3-4 jours à enregistrer ça, puis mettons 3-4 jours à le mixer. Donc, 8 jours, faire un album de cette qualité-là, c'est quand même très peu. Donc, ça s'est bien passé.
Et il n'y a pas le doute de est-ce que ces chansons-là vont marcher?
Ben,
parce qu'on le sait déjà.
Puis là, tu sais, je le vois par l'engouement, puis mes ventes, je suis obligé de le constater que ça fonctionne plus. Tu sais, c'est comme si. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, quand Sylvain Cossette a lancé 70s, des chansons qu'il a chantées toute sa vie dans les bars, il allait tellement bien, ces chansons-là, que les gens se sont dit « Colin, j'aime ça l'entendre faire, cette affaire-là. » C'est un peu la même affaire qui se passe avec moi. Tu sais, je pense que les gens apprécient mon côté auteur-compositeur, mais ils apprécient peut-être un peu plus le côté entertainer-pianoman. Je le sens dans la fougue là, que je reçois, en tout cas de l'énergie des gens, puis de la réception de l'album, puis du spectacle.
Mais est-ce que c'est dur à accepter, ça?
Pas du tout.
OK.
Mais non, pas du tout. Tu sais, quand tu remarques, tu sais, quand tu penses à ça, là, moi, là, j'ai la chance d'écrire mes tunes. Mes tunes à moi passent à la radio. J'ai la chance d'écrire des tunes pour d'autres artistes que j'admire.
Qui jouent à la radio aussi.
Ben oui. Mais j'ai la chance que les gens veulent me voir en spectacle dans un certain contexte que j'adore faire. Que, tu sais, quand tu développes une expertise dans quelque chose, tu es quand même fier que les gens. Ils trouvent ça le fun. Si t'es bon dans quelque chose, c'est le fun de le montrer. Donc, moi, c'est ma spécialité. J'ai fait ça partout dans le monde. Je suis pas gêné de le dire. Il m'est arrivé des aventures hallucinantes alentour d'un piano. J'ai fait une soirée avec Shania Twain devant Bryan Adams, puis Nick Mason de Pink Floyd, puis Tommy Hilfiger, puis Bill Gates, puis Mick Jagger. Puis c'était ça, ma soirée. Là. Donc, des soirées très glam de piano bar. J'en ai fait. Puis j'aime ça de le communiquer sur des grandes scènes. Fait que pour moi... J'ai un grand, grand, grand plaisir coupable à faire ça. Parce qu'en même temps, je peux continuer d'écrire des chansons.
Bien sûr.
T'sais, fait que je suis comblé de toutes parts. Là, t'sais.
Est-ce que tu te lances des défis dans ton spectacle? Parce qu'évidemment, on pourrait dire, je les ai tellement faites. Il y a une aisance qui est là, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est de se mettre un peu en danger à chaque fois.
Il y en a des défis. Ben, t'sais, il y a un numéro, entre autres, où je trouvais ça dommage que les gens me voient toujours assis statique au piano. Donc, je me suis fait faire j'ai un gros piano à queue orange que je me suis fait faire pour la tournée, mais je m'en suis fait faire un bébé que je porte comme un rack avec de Cracker Jack au Centre Bell, okay, si tu veux. Ouais, là. Ouais. Puis je m'en vais dans la salle avec un micro sans fil. Et je suis tout près des gens. Les gens voient mes mains. Tout est sans fil, mais ça sonne super bien. C'est vraiment un petit bébé piano à queue. Puis ce numéro-là, c'est un gros, gros stunt. Ça n'avait jamais été fait. Même que quand j'ai demandé à l'ingénieur de me le faire, il dit « Voyons, ça peut pas exister. » Je dis « Oui, il faut que ça existe parce que je veux le faire. » Donc ça, c'est un... mais je me mets en danger parce que dépendamment des salles où on va, les escaliers sont pas égaux. À un moment donné, j'ai assommé un monsieur avec le derrière, avec le bout de mon piano. Mais tu sais, ça devient un peu comique. Mais évidemment que je me mets en danger vraiment avec ce numéro-là. Mais c'est vraiment le fun, puis j'autorise tout le temps les gens à filmer dans ce bout-là, puis les gens, c'est un petit peu, vu qu'on doit, ils filment, je dis mettez ça partout sur ces réseaux sociaux, je veux que les gens voient ce numéro-là pour que ça leur donne le goût de venir, puis c'est ça, je me mets en danger dans ce genre d'événement-là, comme là on a changé hier au meeting, on a changé l'ouverture du spectacle qui est vraiment plus flamboyante, plus grandiose. Donc, c'est assez spécial. Je me mets en danger assez souvent.
Christian Marc, c'est toi sur la pochette, mais d'une autre couleur.
Ouais, j'ai fait orange un peu.
La même couleur que ton piano.
Exactement, la thématique.
C'est comme
vraiment...
ça que c'est arrivé?
Oui, c'est vraiment...
l'orange.
Oui, exactement. En fait, c'est la continuité. En fait, ma pochette d'Irréversible, qui est mon album qui est sorti en 2014, il y avait beaucoup d'orange dessus. Pour la thématique, pour le lancement, je m'étais fait faire un piano orange, puis je l'ai gardé parce qu'évidemment, c'est rendu une espèce de marque de commerce. Ouais. Puis la continuité avec Piano Man Experience, je trouvais que là, ben, j'allais juste continuer. Il y a des touches d'orange. Fait que non, je suis content. Je suis assez fier de cette pochette-là. Puis ça fait un peu vintage en même temps.
T'es producteur?
Oui.
Ça ajoute énormément de responsabilités, évidemment.
Ça n'a pas de bon sens.
Est-ce qu'on hésite avant de se lancer dans cette aventure-là?
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr parce que...
Est-ce que c'est un risque financier?
C'est un gros risque financier. Puis tu sais, les gens qui disent que souvent les artistes ont tête des subventions et tout ça... Écoute, moi, je peux te parler, je vais te dire les vraies affaires. Là. Moi, j'ai eu Musique Action pour mon album Irréversible. Puis j'ai eu à peu près, je vais être super honnête, là, j'ai eu 80 000 sur 2 ans. Mais pour avoir 80 000, il faut que tu aies dépensé 160 000. Et il faut que, puis tu peux pas la garder pour toi, il faut que tu donnes, c'est des salaires à des musiciens, à des réalisateurs, à des studios d'enregistrement, à des graphistes. Donc tout cet argent-là s'en va. Puis il faut que tu t'assures que tous ceux qui travaillent dans ta liste, c'est des citoyens canadiens. Ça te prend la preuve qu'ils ont encaissé le chèque. C'est très, 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 très compliqué. Puis pour qu'ils t'aident, c'est parce que toi, t'en mets beaucoup. Tu sais, je veux dire, risquer 160 000, même s'ils t'en redonnent 80, ça se peut que tu le perdes, l'autre 80, là, on s'entend, là. Fait que ça prend du guts. Puis dans ce métier-là, on n'a pas beaucoup d'aide. Tu disais que je suis le meilleur vendeur pour mes affaires, c'est moi, parce que c'est sûr. Parce que je suis producteur maintenant de mes affaires, fait que je m'inspire vraiment des gens qui ont réussi dans cette branche-là, des Mario Pelcha de ce monde, tu sais. Mais faut savoir vraiment que, oui, on risque des sous. Tu sais, Piano Man Experience, ça m'a coûté, 20-25 000 sans subvention parce que c'est des reprises, donc il n'y a pas de subvention à ce moment-là. Mais c'est
sans savoir.
Ben là, tu sais, c'est ça. Tu te dis, mais je suis chanteur, j'écris des chansons, je sors 25 000 de mon compte toi-même au mois de novembre avant Noël, puis... Tu te dis, j'espère-tu que ça va marcher? Fait que des fois, je fais des sous, mais je suis pas gêné de le dire parce que j'en ai risqué pas mal. T'sais. Fait que c'est vraiment des moves que j'ai fait un peu de. Parce que j'en avais pas d'aide. Fait que je disais, je vais le faire moi-même. T'sais. Un peu comme la plupart des entrepreneurs deviennent comme ça parce qu'ils veulent vraiment avancer à leur rythme. Ouais, exactement. Parce que au départ, j'étais signé avec Universal à mon premier album. Puis tout ça, puis j'étais en bon terme. Puis tout ça, même qu'ils m'ont laissé m'en aller assez facilement. Puis ils m'ont même aidé. Et c'est eux qui m'ont rappelé, c'est Universal DEP qui m'ont dit pourquoi, comment tu travailles comme producteur, pourquoi tu signerais pas d'autres artistes? Je dis, ben voyons donc, j'ai jamais pensé à ça. Il dit, ben nous autres, on te regarde aller, puis tu ferais un pas pire label, puis on t'aiderait. T'sais. Donc, c'est pour ça que depuis quelque temps, je signe d'autres artistes, puis j'ai développé une expertise, puis j'ai une fille qui fait le web, j'ai une fille qui fait les subventions, j'ai Manon qui m'aide avec la comptabilité, puis le suivi, puis tout ça. Donc, j'ai une petite équipe, mais c'est le fun.
T'es devenu businessman, donc?
Ouais. Là, c'est ça, là, j'ai dit à ma femme.
Es-tu un bon businessman?
Pas tant.
OK.
Je fais des erreurs. Je pense que je ne suis pas un bon businessman, mais je pense que je vais devenir un bon businessman. C'est juste que pour l'instant, j'ai encore trop de d'émotion. Tu sais, des fois, pour faire de la bonne business, il faut que tu sois un peu détaché, il faut que tu sois un petit peu plus froid. Moi, je trouve trop gentil, je pense, des fois, sur certaines affaires. Mais sinon, je fais de mon mieux, puis c'est ça qui est important.
T'sais. Et là, tu produis d'autres mondes.
Oui, je produis d'autres mondes. Une jeune chanteuse qui s'appelle Coralie.
Qu'on joue sur nos ondes.
Oui, j'ai ma femme, Manon Séguin. J'ai signé un jeune violoncelliste qui s'appelle Xander Howard Scott. Okay. C'est la musique instrumentale, mais c'est, lui, il fait des reprises de tous les plus grands hits, mais à sa façon, au violoncelle, tout ça, mais il fait le tour du monde, ce jeune-là. Puis j'ai dit, pourquoi qu'on ferait pas un album avec toi, puis t'en aurais dans tes spectacles? Puis il a dit, j'avais jamais pensé à ça. J'ai dit, ben, je vais le faire, moi, pour toi, tu sais. Donc j'essaie de me renouveler, je donne des coups de main à d'autres. Je dirais que ces temps-ci, depuis 6 mois, on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes, de démos, de projets, de ci, de ça, de plein, plein d'artistes, même des connus. Là, je me questionne à savoir, moi, je leur souhaite de signer avec un label majeur, puis avec des plus gros moyens, puis tout ça. Je me dis, si la business est rendue là, puis qu'il y a des artistes qui m'appellent, c'est peut-être que c'est la business, elle va pas super bien, tu sais, parce que c'est pas normal. Ça fait 2 ans que
je... Mais en même temps, c'est qu'on finit par se perdre dans un gros label. Des fois, il y a tellement de monde.
Ouais.
Qu'on peut pas sortir le disque comme à la date qu'on veut, quand on le veut, parce que le label a choisi de sortir un autre artiste autour de cette date-là. Il veut pas se tirer des pieds, il sort pas à la fois. Donc peut-être qu'ils veulent aller dans le plus petit pour ça.
Ouais, t'as raison. Puis, tu sais, moi, en fait, je fais pas aux artistes qu'est-ce que je voudrais pas me faire faire.
Bien sûr.
Fait que je prends pas beaucoup d'éditions, je prends pas de redevances. J'essaie vraiment de garder ça au minimum parce que mes revenus, j'aime mieux les faire par moi-même en travaillant plutôt que de le faire sur le dos de mes artistes. C'est pour ça que je ne suis pas un super bon businessman. Mais je vis bien avec ça pour l'instant. Puis même des fois, ma femme, même Chicane ou Virginia, qui est une partenaire avec moi qui fait toute ma paperasse, mes subventions, c'est sûr que des fois, elle me chicane, elle dit, ben là, Christian Marc, c'est parce qu'il ne te restera rien. Là, je dis, oui, mais on peut-tu checker ça plus tard? On va laisser s'envoler, puis après ça, on checkera si... T'sais, mais parce que quand tu décolles un projet, il n'y en a pas d'argent à faire, t'sais, que ce soit n'importe quoi, une business, un album, un restaurant, n'importe quoi. Les 4-5 premières années, tu n'en fais pas d'argent. Faut que tu y crois vraiment beaucoup. Puis tu mets du temps. Fait que c'est ça.
Est-ce que c'est l'artiste qui gagne toujours dans les choix ou c'est l'artiste est en toi, je parle? Là, sur tes projets à toi, est-ce que c'est l'artiste qui gagne ou le producteur? Parce que l'artiste veut toujours se payer le trip artistique. Et le producteur, généralement, sa job, c'est de dire « Non, Christian Marc, ça coûte trop cher. » Mais là, c'est le même gars.
C'est un peu des deux, je pense bien. Ouais, c'est un petit peu des deux. Mais l'artiste, c'est sûr que, tu sais, dans la vraie vie, j'aimerais ça aller enregistrer à Prague, puis à Abbey Road, puis à Nashville. Mais tu sais, comme producteur, je les vois, les dépenses, puis ça fait... Les mathématiques marchent pas, là, tu sais. Donc, pour l'instant, faut que je me contrôle. Peut-être le producteur prend un petit peu plus le dessus.
Est-ce que quand on lance un projet, c'est l'artiste qui est fier ou pas mieux, c'est le producteur?
C'est ma mère.
Mais, ah, mais l'allure.
Oui, c'est ça. Mais, c'est, je sais, l'artiste, il est plus... tu sais, comme on n'aime pas ça, s'écouter chanter, nous autres. Là, fait que moi, je lance un album, je l'écoute pas. Là. J'espère que les gens
vont l'aimer. Puis en même temps, tu l'as tellement écouté vers la fin.
Oui, à la fin, quand tu te plantes dans le mix. Là. Exactement. L'artiste insécure, un artiste c'est toujours un peu insécure, ça l'espère tellement que les gens vont l'aimer, c'est sûr. Le côté producteur, il est un petit peu plus froid avec ça, puis il se dit, garde, c'est ça, puis on a fait de notre mieux. Puis, fait que c'est deux mentalités différentes, je dirais que c'est mon genre de bipolarité. Là. Ça se peut-tu, ça?
Oh, oui, ça se peut. On a parlé de tes spectacles un peu partout sur la planète il y a quelques années. Est-ce que ça te manque, ça, de voyager avec la musique?
Non, ça me manque pas parce que j'ai eu d'autres offres pour aller à Vegas, des longs stretches, Atlantic City. Je suis allé souvent. Puis là, j'aime ça, travailler ici. Puis quand j'ai des moments plus tranquilles, ben moi, là, c'est le côté pianiste qui est toujours de l'ouvrage. Je pogne toujours un album, enregistrer un album avec un tel ou un autre tel, écrire des chansons. Sinon, je suis le pianiste de plein de monde aussi. Encore aujourd'hui, puis il y a du monde qui dit « Ouais, mais pourquoi tu fais pas le grand saut? » Ben, j'aime ça, jouer du piano. J'aime ça, jouer avec Mario Pelcha, moi. J'aime ça, jouer avec Brigitte Boisjoli. J'aime ça, jouer avec Danny Bédard, tu sais.
Et ça te sort de tes pantoufles à toi? Ça te sort de ta musique à toi aussi?
Puis ça fait du bien. Moi, je suis un fan de chanteur, puis de jouer avec des artistes comme ça qui ont le métier dans le corps. Mais je jouerais juste avec des personnes que j'admets, par exemple. C'est parce que je peux choisir aujourd'hui. Je ne suis pas obligé d'accepter une tournée. Enfin, quand j'accepte, c'est parce que j'admire l'artiste. T'sais. J'en admire beaucoup, tu vas me dire. Mais ça me sauve de ne pas justement aller travailler à l'extérieur. Parce que dans le fond, moi, quand je suis parti quand j'ai arrêté le cégep, je suis allé tout de suite au Japon puis aux États-Unis. Puis je faisais beaucoup d'argent là-bas. J'avais 22 ans, je faisais 2000$ par semaine. c'est beaucoup d'argent pour chanter des tunes. Oui. Hey boy, ça vaut pas ça. Là. Fait que moi, aujourd'hui, tu sais, je comprends vraiment la valeur de l'argent beaucoup plus, puis je suis conscient de l'industrie, puis c'est précieux. Tu sais, j'ai une carrière, le fun. Je suis pas tout, j'ai pas ma face dans le séjour à tous les semaines, c'est pas ça. J'ai un autre genre de carrière, mais je changerais pas ma vie avec personne, tu sais. Mais je pourrais plus partir des six mois ailleurs, là, tu sais. Non, je suis plus, je m'ennuie trop d'ici. Tu sais, j'amènerais ma femme, oui, mais non, j'ai besoin d'être proche de ma mère, proche de toi.
On se voit pas si souvent
non,
que ça.
C'est bon. Ça. On se fait plus des coucous sur Facebook.
Tu as parlé de soirée glamour tout à l'heure dans ton passé avec plein de vedettes internationales. C'est comment ça qu'on vit ça, quand on est un trippé de musique puis que Mick Jagger qui est là, que Bryan Adams est là, que Shania Twain est là?
C'est surréaliste, tu sais. Puis évidemment que j'ai pas de photos de tout ça. J'en ai quelques-unes, mais j'en ai vraiment très peu parce qu'évidemment, j'aurais jamais voulu avoir la groupie puis dans ces soirées-là.
Parce que c'est toi qui es sur scène. Très...
Ouais, puis tu sais, c'est des soirées très, très, très VIP où. Ça ferait pas de sens de prendre un selfie avec Bill Gates. Là. C'est, lui, il est là parce que justement, il c'est parmi les gens de la haute, puis il n'y a personne qui s'admire là-dedans. C'est tout des.
Ils sont tous égales.
Ouais, tu sais. Puis je te dirais que avec ces gens-là, j'ai jasé beaucoup plus de finances que de musique.
OK.
Beaucoup. Tu sais, Nick Mason, Roger Waters. J'ai jasé avec ce gars-là, puis on parlait de finances, là, on parlait de où est-ce que lui il a placé son argent, puis que, comment il a pris telle décision. T'sais. Fait qu'on parlait pas de musique nécessairement. C'est spécial, tu sais.
Mais est-ce que c'est intimidant qu'on les voit puis qu'on joue devant
encore
eux?
Une fois, non, parce que moi, quand j'ai un piano devant moi, je me sens comme un char d'assaut. Je sais que même ces gens-là qui ont des talents fous, je me sens pas moins bon qu'eux autres, puis c'est vraiment pas de la fausse prétention. Là, c'est que ça fait 23 ans que je fais ça. Fait que, t'sais, c'est sûr, mais c'est intimidant au niveau qu'ils ont des carrières hallucinantes. C'est surtout les côtés de que c'est des génies de la créatifs. Mais là, moi, dans ces contextes-là, je suis un entertainer, je sais que là-dedans, ça marche au bout. Si j'avais chanté mes propres chansons, oui, j'aurais été petit dans mes bas et tabarouette. Parce que, tu sais, devant Bryan Adams, c'est un génie de la créatif d'écriture. Ouais, là, j'aurais été intimidé. Mais pour l'entertaining, ça aurait été temps, pas en tout.
Serais-tu capable de jouer Piano Man devant Billy Joel?
Oui.
OK.
Oui, j'attends rien que ça. Mais Billy Joel, c'est mon idole absolue, par exemple. Ouais. C'est vraiment... un des plus grands génies musicaux. C'est drôle, hein, parce que en ayant travaillé beaucoup aux États-Unis, là-bas, c'est un dieu vivant. Là. Puis pas Elton John, pas en tout. Là. Ici, je fais Elton John, le monde, il arrête de respirer. Mais de la façon que moi, mon spectacle est monté, c'est-à-dire le numéro final, c'est l'hommage à Billy Joel. Et tout le monde, au début, me dit, mais sur papier, ils disent, mais non, faut-tu mettre Elton John à la fin? Je dis non. Puis quand je le fais, c'est sûr qu'Elton John, il a des grandes chansons, tout ça, puis c'est un personnage. Mais les gens, souvent, savent pas nécessairement toutes les chansons de Billy Joel qui passent. Ils savent pas que c'est lui. Puis moi, je me reconnais beaucoup là-dedans parce que souvent, mes chansons jouent à radio puis le monde ne savent pas que c'est moi. Madame. Fait que je me reconnais beaucoup, beaucoup dans cet artiste-là. Puis il y a de tous les styles de musique qu'il a écrit ici, qu'on pourrait même pas croire que c'est lui. Still Rock and Roll to Me, We Didn't Start a Fire, She's Always a Woman to Me, Piano Man. Écoute, il y en a des centaines, tu sais. C'est vraiment mon idole absolue, Billy Joel. Moi, je serais peut-être intimidé finalement de jouer au piano. tu viens de me jouer dans la tête. Là.
Tu travailles avec ta blonde, ben, ta femme, depuis déjà quelques temps. C'est d'ailleurs en musique que vous êtes connus.
Oui, on s'est connus, nous autres, aux États-Unis, c'est tout drôle. Enfin, on faisait un show là-bas, Atlantic City. C'était des longs stretches dans ce moment-là. On faisait plusieurs mois dans une grosse, grosse salle, Atlantic City, au Tropicana, qui est un gros casino avec une immense salle. C'est une des plus grosses salles de l'Est des États-Unis. Là. C'était 4000 places, un enfant de même. Fait qu'on faisait des stretches de 3 mois là-bas, 4 mois. Puis Manon, elle avait 18. Moi, j'étais déjà vieux. j'ai trouvé grippette, j'ai trouvé très talentueuse, évidemment. Puis, mais jamais j'aurais pensé que ce serait ma femme aujourd'hui. On aurait tellement ri si on s'était dit ça il y a plusieurs années, tu sais. C'est fou, là. Elle a 30 ans, ça fait que ça fait 12 ans. Elle a 12 ans, non, on n'aurait jamais pu se penser qu'on serait tombé en amour. C'est arrivé plusieurs années plus tard. Où là, je faisais encore une fois des soirées un peu lounge aux États-Unis dans des piano-bars, tout ça. Puis j'avais sorti mon album Christian Marc, mon premier album. Donc là, j'étais obligé un petit peu d'aller aux États-Unis travailler pour faire un peu d'argent quand même. Parce que quand tu fais le commitment que là, j'avais fait vraiment j'avais pris la décision de plus accompagner des artistes. J'avais quitté Sylvain Cossette, j'avais quitté Stéphane Rousseau. Je jouais plus avec personne. Les revenus ont baissé. T'sais, comme pianiste, je faisais 100 000 par année. C'était peurant, là. Fait que là, je tombais à 12 000. Là. Fait que c'était un gros gap. C'était un gros risque. Fait que j'avais pas le choix là, d'aller vraiment faire des petits trucs aux États. Puis à un moment donné, tout seul, on dirait que les places où j'allais, ils disaient « Ah, ça serait le fun, tu viennes avec une chanteuse. » Je dis « Oh, je sais pas, ça me dérange pas. » Puis le nom de Manon Séguin était venu. « Pourquoi tu viens pas avec la petite Manon Séguin, la petite fille de l'Ontario? » Je dis « Oh, ça me dérange pas, elle est super bonne. » Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mais là, là-bas, oublie ça, coup de foudre musical ultime. Puis coup de foudre personnel après. Puis c'est vraiment la femme de ma vie. J'en rêve la nuit, tu sais, c'est ma femme.
C'est comment travailler avec elle?
Ben, c'est un privilège. Tu sais, c'est bizarre parce que c'est une fille qui n'est pas carriériste. Elle apprécie chaque petite chose qui arrive. Elle est très dévouée, très familiale, dévouée à sa famille, dévouée à son mari. Des fois, je la trouve un peu trop dévouée à moi, puis j'aimerais ça qu'elle... Mais tu sais, dans le sens, je l'apprécie beaucoup. Mais des fois, j'ai plus d'ambition pour elle qu'elle en a. Mais c'est pas vraiment le manque d'ambition. C'est vraiment, elle est dévouée. C'est la femme qui a un immense cœur, tu sais. C'est le noyau de sa famille quand sa mère est décédée. Tout le monde appelait Manon. C'est la plus jeune, mais c'est la... Comment je dirais ça? C'est vraiment... Tout le monde, c'est une vieille âme, tu sais. Fait que... Mais par rapport à tout ce qu'elle fait dans la vie, une grande admiration pour cette fille-là, mais cet être humain-là aussi, là, tu sais.
Son album, tu voudrais le sortir quand, idéalement?
En septembre, j'aimerais bien.
Ah, ça sortirait cette année?
Oui, là. Oui, okay. Oui. C'est quand même assez pas mal avancé. Mais encore une fois, c'est ça, c'est qu'on est tellement éparpillé à essayer de ben, gagner nos vies, puis rentrer des sous.
Ouais,
parce que ça coûte cher faire un album. Puis pour l'instant, tu vois, j'avais déposé pour une subvention pour Manon il y a déjà 3 ans. J'avais été refusé pour le projet. Donc on l'a reporté, c'est sûr. Mais je dis, on va le faire pareil. Au pire, on va le payer au complet, tu sais. C'est parce que le problème, c'est que quand tu fais un album, ça coûte 50 000, mais les revenus viennent pas avec ça. Fait que tu sais, c'est un peu ridicule de dire, ben je mets 50 000 d'une affaire, mais ça risque de me rapporter 12 000. C'est ça, faire un album aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est vraiment une carte de visite, mais il faut que tu aies une garantie que tu vas en vendre quand même un certain nombre. Puis avec Manon, on n'est pas encore rendu là, ça veut dire que les gens, ils la connaissent.
Vous les découvrent avec tes spectacles aussi?
Ben oui, c'est sûr. Puis via Mario Pesce, parce que Mario Pesce donne beaucoup de une super tribune à tous les soirs. Il a fait chanter maintenant, et puis juste Coris, elle est chanteuse invitée avec lui. Donc tous les soirs, il a fait connaître, c'est fou, là. C'est vraiment un allié majeur, Mario Pesce. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que lui, il y a comme deux gangs dans la musique au Québec. Il y a Universal, DEP, puis il y a Québécois, c'est-à-dire Distribution Select. Mario, il est avec l'autre gang, puis il nous aide beaucoup l'autre bord. Il aide tout le monde, lui. Il s'en fout de ça, tu sais. Mais il y en a des fois un petit peu de politique, là.
Oh, ouais.
Fait que dans le cas de Manon puis de moi, il nous a énormément aidés, mais il se faisait chicaner de l'autre bord. Il disait, hey, c'est pas des artistes chez Québécois, ça. Pourquoi t'aides pas des nôtres? Il dit, ben, je vais aider qui ça me tente, moi. Ils ont besoin d'aide, là. Puis après ça, il a aidé les deux frères.
Ah oui.
Lui, il pense pas à ça. T'sais, c'est le fun.
Ce sera des textes de qui sur le disque de Manon?
J'en ai beaucoup. Il y a une toune magnifique de Christian Sbroka, Richard Turcotte. Qui s'appelle Voleur de rêve. C'est super beau. Il y a Nelson Mainville. Ouais, c'est pas mal ça.
Peut-être appelé les amis, finalement.
Les amis, ben là, c'est rendu Nelson Mainville. On travaille beaucoup ensemble. Il m'envoie souvent des textes. Tu peux-tu me faire une musique là-dessus? Récemment, il m'a appelé pour une chanson pour Diane Dufresne. Fait que j'ai dit, boy, je pense que tu t'es trompé de numéro, là. Je trouvais que la commande était grosse, pas mal. Mais finalement, j'ai accepté le défi, puis la réaction de Diane a été super bonne. On attend, mais ça a l'air pas mal dessiné qu'elle accepte la chanson. Mais là,
ça te ferait quoi, ça? D'avoir ton nom dans un projet de
Diane Dufresne? Accomplissement. C'est un immense
qui fait pas tant de projets que ça, déjà, en partant?
Non, c'est ça. Fait que c'était déjà un immense cadeau. Non, ça se peut pas. En fait, tu sais, j'y crois pas encore. Là.
Tant qu'il n'y aura pas le nom, là.
Non, c'est ça. Par contre, la chanson, je sais, je suis assez fier. J'ai pas dormi pendant 2-3 jours. Puis, tu sais, j'essayais de trouver vraiment une chanson à la grandeur de cet interprète-là. Mais quand je l'ai envoyé, j'étais sûr de mon coup aussi. J'étais un peu comme ça, tu sais. J'envoie pas quelque chose quand je suis pas sûr. Mario Pesce sur son album Un homme qui vous ressemble, j'avais envoyé une chanson, puis j'ai dit, Mario, j'ai une chanson pour toi. Puis je l'ai texté, c'est sûr, j'ai chanceux, je suis son ami. Là. Mais il dit, ben écoute, je disais, toutes les chansons sont toutes faites, là, l'album est fini. J'ai dit, non, t'as vu celle-là, je sais. Puis sur le démo, je l'imitais un peu, je me suis dit, m'a mettre toutes les chansons de mon bord. Donc, puis il m'a texté 10 minutes après, il dit, crime, oui, je la veux. Fait qu'il a enlevé une toune pour
me. Il est retourné en studio, donc?
Ben oui. Fait que, mais j'étais sûr de mon coup, tu sais. En même temps, je me suis dit, s'il apprend pas, ça sera sur un prochain album, tu sais, c'était pas bien grave, là. Mais c'est le fun d'écrire pour d'autres, surtout des grands interprètes de même, là. C'est un privilège.
2010, ton premier album, solo. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as comme arrêté d'accompagner des gens à ce moment-là pour te consacrer à ta carrière. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre de dire, OK, ben, maintenant, je vais faire mes trucs à moi, mes spectacles avec mon nom à moi.
Ben, très difficile parce qu'en plus, moi, personne ne me connaissait. Là. C'est-à-dire, les diffuseurs, les salles de spectacle ne me connaissaient pas. Les radios m'ont adopté vite. Ils ont comme joué mes chansons rapidement. Puis ça, c'est un privilège. Puis je le prends jamais pour acquis parce qu'à chaque chanson.
Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire. Tu sais, il y a des chansons qui jouent à chez vous puis qui ne jouent pas dans d'autres stations parce que c'est du choix personnel à chaque station. Mais c'était très épeurant financièrement. Puis j'étais encore naïf dans ce temps-là. Je pensais vraiment que c'était un petit peu plus facile que ça. C'est-à-dire que je me disais que si t'as des tunes qui tournent à la radio, ça va être plus facile. Puis c'est vraiment, ça n'a pas rapport.
Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça veut pas dire qu'on sait que c'est toi qui chante. On connaît la tune, on la chante, mais on sait pas c'est qui.
Puis tu sais, c'est bizarre à dire, mais j'en ai accompagné beaucoup d'artistes. J'ai vu des ascensions. Puis il y a un chiffre magique quand tu fais pas la voix au Star Academy, c'est 10 ans. Ça prend à peu près 10 ans avant que les gens sachent vraiment c'est qui l'artiste. Moi, là, c'est ça, de 2010, on est rendu à 2017. Ça fait pas 10 ans encore, non. Tu comprends? Fait que je me trouve un petit réconfort dans ce chiffre magique-là. Puis je veux pas aller à la voix, puis je veux pas aller dans ces genres d'affaires.
Mais t'as travaillé à la voix.
J'ai travaillé, c'est ça, exactement. J'ai vu l'envers du décor, j'ai vu les points positifs. C'est une maudite bonne émission de télé, là, tu sais. Mais c'est juste que c'est pas pour moi, tu sais. Fait que dans le fond, le parcours est beaucoup plus long. Mais je pense que là, j'ai des racines très, très solides, tu sais. Puis c'est ça, je fais à ma tête de cochon.
Est-ce que c'était clair que tu allais faire une carrière solo éventuellement? Est-ce que ça avait toujours été ton souhait? Parce que tu aurais pu accompagner des gens, faire des shows dans des casinos toute ta vie. Ça aurait pu être ça ta vie, musicien accompagnateur.
Ben oui, mais j'ai tout le temps été vraiment chanteur autant que pianiste. Tu sais, je dis tout le temps que mon côté pianiste, c'est un accident de parcours. Ben, c'est un heureux accident, là, mais... C'est vraiment, à un moment donné, j'ai reçu un appel pour un album de rock voisine pour être pianiste. Là, j'avais jamais été pianiste pour personne, mais j'arrivais de ma carrière de piano. J'avais fait des shows au Casino de Montréal. Les gens m'avaient vu beaucoup chanter, jouer du piano. Et il y a un réalisateur qui s'appelle Guy Tourville, qui est un réalisateur très prolifique au Québec. Là. Lui, il m'a appelé, il dit « Écoute, il dit, je cherche un nouveau pianiste pour l'album de rock voisine, puis il veut un genre de Elton John. Il veut un pianiste qui va penser comme un chanteur. » Il veut pas un pianiste virtuose, il veut vraiment quelqu'un qui a cet esprit-là, une esthétique de pianiste-chanteur. Fait que je suis allé faire un album avec Rock, puis France d'Amour était dans le studio pas loin, elle m'a entendu, fait qu'elle disait « Hey, toi, je te veux pour ma prochaine tournée, pogne 4 ans de tournée avec France d'Amour. » Puis après ça, Sylvain Cossette, qui m'a vu avec France d'Amour, dit « Hey, toi, tu viens 5 ans de tournée avec moi, avec la grosse tournée 70s de fou, qu'on a eu du fun, c'était super enrichissant cette affaire-là. » Donc, je pensais jamais que ça m'arriverait, une affaire de même, puis j'aimais ça. J'étais un fan de chanteurs, j'étais un fan de ce genre d'artistes-là, France d'Amour, Sylvain Cossette, c'est des chanteurs en tabarouette. Je pensais jamais que ça allait m'arriver, tu sais. Puis après ça, ben là, tu vois, à ce jour, j'ai joué sur 65 albums de plein de monde, là, du piano ou des voix ou des ci, des ça, puis ma voix, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, je fais les parodies de Paul Arcand, je chante sur des films, je chante des... Tu sais, comme j'ai fait des voix sur votre beau programme cette semaine, fait que je suis tout le temps en train de travailler tout le temps quelque chose en studio pour quelqu'un, pour quelque chose, ce qui me permet de mettre des sous de côté pour risquer sur mes projets à moi. Fait que c'est juste un peu génial, tu sais.
C'est rare que je parle des autres radios, mais là, je vais le faire. Tu travailles sur les parodies de Paul Arcand.
Ouais.
Tu as été engagé en même temps que Francis Mondoux.
Il y a plusieurs années, oui. Puis là, ben,
qui nous a quittés, Francis, après
ça, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on était trois. Il y avait Nancy Fortin, Francis Mondoux et
qui
moi.
Qui est chanteuse, Nancy Fortin.
Oui, Nancy Fortin, qui est une chanteuse incroyable, qui fait beaucoup de films de Walt Disney, beaucoup de spectacles au casino de Montréal.
Qu'on ne connaît pas tant, mais qu'on entend souvent.
On entend souvent. Et Francis Mondoux, qui est un talent malade aussi. C'est un grand, grand chanteur, super polyvalent. Ben là, c'est ça, au départ, il y a plusieurs années, on avait commencé à faire ça, les parodies. Moi, après ça, j'ai sorti mon premier album, je me suis un peu retiré de ça parce que je voulais vraiment envoyer le signal que mes chansons étaient sérieuses puis pas que je faisais clown à la radio. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que les deux vont ensemble parce que c'est ça ma vie, c'est un peu de faire plein d'affaires. Là, évidemment, ben Francis est décédé cette année. Donc, l'équipe de Paul Arcand m'ont rappelé pour savoir si ça tenterait-tu de revenir faire les parodies puis... là, évidemment que Francis, moi, je trouvais, j'avais beaucoup d'admiration pour ce gars-là. J'ai dit, ouais, c'est des gros souliers à chausser quand même. Parce que c'est non seulement un bon chanteur, mais un bon acteur, tu sais. Ça prend ça aussi pour faire des parodies. Faut pas que tu te prennes au sérieux. Faut t'émettre des voix, tu sais. C'est assez complexe. Fait que j'étais stressé, mais j'ai accepté. Puis là, c'est ça depuis le mois de septembre que je fais ça. Mais là, c'est-à-dire à toutes les semaines.
C'est quand même drôle de dire les parodies à Paul Arcand. Parce que Paul Arcand, on le connaît pas tant de ce côté-là, en fait.
Non, mais c'est lui qui les écrit, hein. Lui et Marc Brière. Donc, c'est souvent très bien écrit, c'est souvent très, très drôle. C'est vraiment sur l'actualité. Puis Dieu sait qu'il faut en rire de l'actualité parce qu'il est bobo et qu'il s'en passe des affaires.
Temps,
c'est ça. Donc, je prends ça comme un cadeau. Évidemment que financièrement, c'est le fun. Puis c'est ça. Je suis quand même vraiment chanceux de ce qui m'arrive dans les deux, trois dernières années. Là. Je je vais toucher du bois, là, tiens.
On t'a aussi entendu dans l'an 50.
Oui.
C'est toi qui as écrit quelques chansons.
Pour la série L'an 50 et le film. Mais ça, c'est une drôle d'histoire parce que, il y a plusieurs années, j'avais écrit des chansons sur les films à vos marques party.
Oui.
Et c'était ces deux films-là avaient été réalisés par Frédéric Damour, qui, oui, lui,
qui a travaillé sur L'an 50.
Qui a travaillé sur L'an 50. Donc, il m'a rappelé pour faire des chansons avec mon best friend, Mario Sévigny, qui est un compositeur de musique de film. Maintenant, il travaille beaucoup à Los Angeles, à Toronto, puis tout ça. Il est rendu un grand compositeur de musique de série puis de film. Donc, on a des parcours, tu sais, qui ont explosé. On jouait dans les bars, on avait 16 ans ensemble, tu sais. C'est le fun, tu sais. Mais c'est ça, sur L'an 50, ça a été... Ben, t'sais, en plus, ils m'ont demandé d'écrire la chanson de la scène finale, ouais, de la série là, t'sais, où Marina Orsini meurt. Je ne voulais pas vous vendre le punch, mais Suzy Lambert, elle meurt. Et puis là, ben, mais il avait pas tourné la scène encore. Puis Frédéric Damour m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses la toune. Puis moi, je vais tourner la scène en ayant la chanson dans la tête. T'sais. Mais il m'avait envoyé juste le scénario. Fait que là, je dis, hey boy, Suzy Lambert, elle meurt. Il dit, oui, oui, ça c'est sûr qu'elle va mourir, là. Moi, j'ai su ça comme 2 ans avant tout le monde. Mais là, ça mettait la barre haute pour écrire une chanson. Puis la première personne à qui je l'ai envoyé, c'est pas Frédéric Damour, c'est Marina Orsini.
OK.
Ouais, qui est devenue une amie un peu avec les années, là, depuis les films à vous, Marc Party. Mais aussi,
puis qui a fait de la radio aussi.
Elle a fait de la radio, ouais, tout ça. Donc, je l'ai envoyé dans sa boîte courriel, ben, elle pleurait. Ben, là, je disais, qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Fait qu'elle dit, mon Dieu, je pense qu'elle aimait ça, mais elle était très émue parce qu'évidemment aussi, elle, c'était un deuil de
25 ans.
De 25 ans, c'est ça. Fait que, non, c'est spécial.
C'est comment s'entendre dans une série qui est mythique comme L'an 50 au Québec?
C'est vraiment un gros, gros cadeau.
Parce que forcément, tu as grandi avec L'an 50.
Ah oui, comme à peu oui, près je tout suis le un monde, fan là. Fini de L'an 50. J'ai un gilet du National, rien que pour te dire. Puis je l'avais bien avant d'écrire des tunes sur la série. Là. Fait que, non, c'est un gros, gros, gros cadeau. Puis ça s'explique pas. Il n'y a pas de mots pour ça. Là. Je suis comme un privilégié de ça.
Christian Marc, les prochains mois, évidemment, ça va être la tournée de Piano Man Experience.
Oui, on a 35 dates qui s'en viennent à travers le Québec. C'est un immense cadeau. Mais tu sais, c'est vraiment les retombées, je pense, d'un an et demi de première partie de Brigitte Beaujoli.
Ouais.
Je dois beaucoup à Brigitte et à son gérant, Martin Leclerc. Je leur dois beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. En fait, Brigitte, quand elle m'a appelé, c'était un peu naïvement. Elle dit, j'aimerais ça t'avoir comme pianiste. Elle dit, dans le fond, pour t'avoir, je t'offrirais de faire ma première partie. Mais je me sens un peu mal, là, dans le fond. Elle dit, ça fait plus longtemps que tu fais ça que moi. Je dis, non, je vais dire oui. J'ai dit oui, puis je suis super content. Puis elle est bonne à ta barouette.
Puis à chaque fois aussi, c'est de te faire découvrir par un public différent.
Bien, un public qui n'est pas le mien du tout, là. Donc, c'est un cadeau. Puis, tu sais, d'aller rejoindre les gens, c'est ça qui est le plus dur. Si on se dit, alors donc, il n'y a plus d'émission de télé. Quand on lance une nouvelle chanson à radio, il n'y a plus d'émission de télé où on peut la présenter. Donc, les gens qui sont pas sur Facebook, là, ou qui sont pas sur nos Facebook, ils le savent pas. Fait que, mais il y en a plein des bons chanteurs qui sortent des tunes tout le temps, mais on le sait pas. Il y a moins de tribunes qu'avant. Il y a moins d'émissions comme la tienne. Il n'y en a plus, en fait. Là. Les temps de micro sont très, très courts. On n'a plus le temps de se vendre. On n'a plus le temps de raconter nos affaires, tu sais. Fait que, non, mais c'est ça.
Toi, la semaine passée, il y a beaucoup de gens ici qui se demandaient t'étais qui, puis je pense qu'aujourd'hui, ils l'oublieront plus jamais.
Ben, c'est mon quotidien, moi, ça me dérange pas. Je comprends ça aussi parce que les gens qui te voient à télé souvent pour te connaître. Oui. Moi, je passe pas à télé souvent. J'ai fait pour le plaisir, genre 9 fois. Là. Puis VTV.
Puis t'es fait encore parce que ce jeu en reprise.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai fait une couple d'affaires, mais c'est très, très compliqué maintenant de passer à la télévision pour un chanteur. C'est plus compliqué. Ça veut dire que c'est très contrôlé. La convergence qu'on appelle, c'est ce qui. Les artistes de TVA, évidemment, qu'on va les voir dans 7 jours, puis on va les voir dans les Covedettes, puis on va les voir dans le Journal de Montréal, puis on va les voir Salut, bonjour, mais on verra pas nécessairement les autres. Il y en a plein. Alexandre Poulain, on voit jamais ça à la télévision. Comment ça se fait? C'est un génie. C'est un génie.
Qui est venu ici.
Ce gars-là, il remplit des salles en France, là, c'est sold out 2 ans d'avance, on n'en parle jamais ici, tu sais. Ariane Brunet, c'est des artistes super rafraîchissants. King Melrose, on le voit pas assez. Comment ça? C'est quoi cette affaire-là? Moi, c'est ça.
Moi, c'est le fun parce que du monde qu'on tourne chez nous. Qui oui. Ça. Mais, moi, je suis bien content.
Mais ça m'enflamme, tu sais, parce que je comprends pas. Je comprends pas que ma mère sache pas c'est qui ces artistes-là. T'sais. Si ma mère sait pas c'est qui, ça veut dire qu'il y a une maudite gang qui savent pas. Donc, c'est ça. On parle vraiment de tribune télévision qu'on a pu. Je suis un fier défenseur de ça.
Si on veut te suivre en show, on a les dates par Internet, j'imagine.
Oui, bien là, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Moi, j'ai 35 dates qui s'en viennent. J'ai pas le droit de les annoncer parce que les salles, ils veulent qu'on attende qu'ils fassent leur lancement de programmation avec leur conférence de presse. Fait que là, tout le monde me dit, mais t'es où, quelle date? Je peux pas l'annoncer, j'ai pas le droit. Fait que c'est un peu mal fait parce que, dans le fond, si je l'annonçais tout de suite, les gens pourraient prévoir d'avance puis tout ça. Mais je vais aller dans toutes les villes principales, tu sais, de Saint-Hyacinthe à Drummond, à Terrebonne, à l'Assomption, à Montréal. Je fais le 10-30 le 26 mai prochain.
Si on peut le dire.
Le club 10-30. Puis j'ai déjà 2 supplémentaires, 28-29 juillet. Donc, les ventes vont super bien. Puis je suis très, très, très content de ça.
Fais-tu des festivals cet été?
J'en fais quelques-uns, mais pas comme Piano Man Experience. Je le fais comme Christian Marc. Okay. Et puis j'en fais un ou deux avec Matt Laurent puis Pat Bourgeois dans un show qui s'appelle Rock the Beach.
Okay. On fait donc, des chansons. Des tonnes de Beach Boys, des tonnes de plage en fait?
Ben, c'est quand on prend des vieux succès rock, mais on les fait un petit peu plus ukulélé style. Tu sais, Matt Laurent, ouais, c'est un gars de ukulélé, puis c'est un vieux chum. Fait que on fait ça. Puis là, ben, nous autres, en même temps que la tournée de Piano Man Experience en 2018, Manon et moi, on va faire une tournée qui s'appelle Nos Incontournables, qui est déjà, que les salles ont déjà acheté. C'est-à-dire, il y a Laurent Jalbert, Mario Pelchat, moi, ma blonde, Natacha Saint-Pierre, Paul Darèche. Ça va être une belle tournée. Fait que ça va être en même temps que Piano Man Experience. Puis justement, Mario Pelchat, vu qu'il nous aime, il est en train de booker ça quand on est en congé. C'est spécial. On ne peut pas être plus chanceux que ça.
Donc, Natacha Saint-Pierre reviendra en tournée ici.
Ouais, Natacha, qui est une fille très sympathique. On a fait l'album Whitaker avec elle. Puis on est allé faire le lancement à Saint-Tite.
Et qui veut revenir ici plus souvent.
Ben, super sympathique. Un peu timide même, je te dirais. Fait que, super voix. Puis moi, j'aime bien. Quand même jolie, hein, on va se le dire.
Merci beaucoup d'avoir été
là. Un plaisir, Luc, anytime.
Toujours le fun de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup.
Merci.
Merci aux gens.